Il sera question d'un tout nouveau saint qui a été canonisé le dimanche de la Trinité cette année, le 2 juin, par le pape Jean-Paul II, évidemment. Et il avait été béatifié par Léon XIII en 1889. Il est mort en 1840. C'est un très grand saint. C'est le premier saint de Chine. Mais ce n'est pas vraiment un Chinois, c'est un Français, Jean-Gabriel Perboire. Un prêtre de la mission lazariste, comme on dit, c'est un lazariste, c'est-à-dire un disciple de Saint-Vincent de Paul. J'ai obtenu des renseignements extrêmement précieux sur ce très, très grand saint. Vous verrez, c'est extraordinaire, cette vie, au point qu'on pourrait croire que c'est inimitable. Mais ce n'est pas ce qu'il faut penser, je vous expliquerai à la fin. J'ai obtenu ces renseignements grâce au père Francis Radenac, qui est un lazariste qui vit ici à Montréal, rue Saint-Germain. Il y a là la congrégation de la mission, les lazaristes, disciples donc de Saint-Vincent de Paul. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. C'est donc le premier saint de Chine, c'est assez étonnant. On aurait pu penser qu'il y en a eu plusieurs qui avaient été canonisés avant, mais non. Cet homme est né dans un tout petit village, à Montgesti, le 5 janvier 1802. Comme vous voyez, il est mort tout jeune, en 1840, à 38 ans. Il était l'aîné de 8 enfants, on l'a baptisé dès le lendemain, et la société française, en ce temps-là, était en train de retrouver, comme vous imaginez bien, une espèce de paix religieuse après les événements épouvantables des années 1790, avec la terreur et les persécutions épouvantables. Et les parents, les Perboires, en particulier le père de Jean-Gabriel, qui s'appelait Pierre, et son frère Jacques, qui était un prêtre clandestin, qui était membre d'ailleurs de la congrégation des lazaristes, étaient nés, eux, tout près de Montgesti, où est né Jean-Gabriel. Ils étaient nés dans une assez imposante demeure, appelée le château de Villary. C'est donc une assez bonne famille, une famille simple quand même. La mère s'appelait Marie Rigal. Elle venait d'un petit hameau aussi, où existe toujours une maison d'une famille Rigal. Et dans cette famille fort pieuse, sur les 8 enfants, il y en a 6 qui se sont consacrés à Dieu. 3 sont devenus prêtres de la communauté des lazaristes. Il y a eu 2 filles qui sont entrées chez les filles de la charité, et une 3e fille s'est faite carmélite. Jean-Gabriel a donc grandi dans une atmosphère de foi. C'était entretenu par le souvenir des aventures absolument héroïques de l'oncle Jacques, qui avait passé à travers la Révolution, et qui avait donc exercé un ministère clandestin, au péril de sa vie. Donc, le jeune Jean-Gabriel a reçu à l'école du village, qu'il fréquentait pendant les mois d'hiver, parce que durant l'été, il fallait qu'il aide ses parents sur la ferme. Il a reçu quand même une assez solide formation primaire, mais c'était un paysan, quoi. Il a acquis à l'école une formation française d'assez bonne qualité, parce que dans la vie courante, il ne faut pas oublier que ce n'est pas le français qu'on parlait. On parlait le quercinol, qui est une espèce de variété de la langue d'oc. Vous savez que jusqu'à assez récemment, en France, on parlait encore beaucoup, beaucoup de ces langues, et il y a encore des régions où l'on parle des langues autres que le français. Ne serait-ce qu'en Bretagne, on le sait fort bien, beaucoup de Bretons, même des jeunes, parle encore le breton. Mais évidemment, ça va en diminuant constamment. Et Pierre Perboire, le père, comptait sur son fils aîné pour prendre sa succession sur la terre. Alors, il ne manquait pas une occasion de l'initier à tout ce qu'un habitant, un agriculteur, doit savoir pour travailler une terre difficile. Une terre difficile et un peu avare, qui ne donnait pas beaucoup de bons fruits. Alors, il conduisait quand même aussi un petit troupeau. Et puis, il me semblait bien que Jean-Gabriel Perboire allait devenir un paysan comme son père. Mais Dieu avait d'autres projets sur lui. Dans cette famille que comptaient des hommes de loi, des commerçants, tout le monde a fait un peu d'études. Tout le monde sait lire, ce qui est assez exceptionnel dans cette région. Le père Pierre Perboire a l'intention de faire faire des études plus poussées à son second fils, Louis. Alors, on va avoir recours pour cela à l'oncle Jacques, le frère de Pierre, le prêtre, le lazariste. Cet homme a eu, comme je vous ai dit, une destinée bien peu commune. Il s'était fait lazariste, il enseignait quelques années au grand séminaire d'Albi. Albi, c'est de là que viennent, c'est pas les fameux albigeois, là, dans le Tarn. Et la persécution religieuse étant survenue là, dans les années 1790, il est disparu dans la clandestinité. Et puis, quand la paix religieuse est revenue, en accord avec son évêque, l'évêque de Cahors, dans le Lot, il a ouvert en 1807 à Montauban une maison de formation, une sorte de collège séminaire pour préparer des futurs prêtres. Et à l'automne 1816, mais les parents, les époux Perboire, ont décidé d'envoyer leur deuxième fils Louis pour faire des études chez l'oncle Jacques à Montauban. Mais le gamin avait à peine 10 ans. Et il craignait un peu de s'éloigner comme ça si loin, d'aller si loin de la maison paternelle. Alors les parents ont décidé, Jean-Gabriel, qui était un peu plus vieux, de l'accompagner durant quelques mois pendant l'hiver. Il devait revenir au printemps. Alors, au bout de peu de temps, les maîtres ont constaté que Jean-Gabriel était extraordinairement doué. Vraiment, c'était un type exceptionnel. Je m'excuse de parler d'un saint exceptionnel, mais ça vaut la peine. C'est tellement étonnant. Et en même temps, il était très pieux. Il ne tombait pas dans l'orgueil. Alors, on lui a proposé de devenir prêtre. Et puis, l'oncle Jacques, donc, a persuadé son frère de laisser le fils aîné, Jean-Gabriel, continue ses études. Et puis, il a écrit, Jean-Gabriel, une belle lettre à son père, dans le même sens. Et quelques mois plus tard, mais à l'automne 1817, l'oncle, le père Jacques Perboire, là, décrit à son frère les progrès rapides de ce neveu exceptionnel. En 2 ans, d'ailleurs, remarquez bien ça, il a bouclé tout le programme des études secondaires. Il est toujours premier. Il est dans les premiers rangs. Voici la lettre que le petit Jean, le petit garçon, 15 ans, écrit à son père. On écrivait bien quand on apprenait le français dans ce temps-là. C'est extraordinaire. « Mon cher père, après votre départ de cette ville, j'ai réfléchi sur la position que vous m'avez faite d'étudier le latin. J'ai consulté Dieu pour savoir l'état que je devais embrasser pour aller plus sûrement au ciel. Et après bien des prières, j'ai cru que le Seigneur voulait que j'entrasse dans l'état ecclésiastique. » Il utilise l'imparfait du subjonctif. En conséquence, j'ai commencé à étudier le latin, bien résolu de l'abandonner si vous n'approuvez pas ma démarche. Je connais le besoin que vous avez des petits secours que je pourrais vous donner. Mais alors, il continue sa lettre en annonçant qu'il va rentrer. Et à l'automne 1818, à 16 ans, il fait officiellement sa demande d'admission dans la congrégation de la mission, les lazaristes, et au cours des années 1819-1820, Jean-Gabriel Perboire suit consciencieusement les exercices du noviciat. Il étudie particulièrement la vie de Saint-Vincent de Paul, évidemment. Il lit les morceaux choisis des écrits de Saint-Vincent de Paul. Il étudie aussi le traité de la perfection chrétienne du fameux jésuite Rodriguez, qui était très à la mode dans ce temps-là. Puis aussi les écrits de Saint-François de Sales, qui sont toujours lus avec plaisir, comme l'introduction à la vie dévote. Et au cours de l'année 1820, on apprend en France le martyr en Chine d'un missionnaire lazariste, c'est M. Clet, C-L-E-T. Un très grand martyr en Chine. La nouvelle arrive donc à Montauban, au collège, et Jean-Gabriel Perboire est impressionné. Et il fait part à son oncle de son désir de partir lui-même comme missionnaire en Chine. Alors l'oncle Jacques, qui a lui-même souhaité autrefois partir en mission en Chine, est tout heureux de voir que son neveu pense à ça, mais il calme un peu son enthousiasme. Mais pendant les vacances d'été de 1826, à 24 ans, Jean-Gabriel Perboire se prépare à son ordination sacerdotale, 24 ans et demi. Et comme il n'y a pas encore de chapelle digne de ce nom à la maison mère des Lazaristes, qui est située, je vous le signale pour ceux qui vont à Paris, rue de Sèvres, c'est pas loin du Bon Marché, C'est très facile d'accès. On n'y pense pas d'aller là, rue de Sèvres, chez les Lazaristes. C'est pas loin de la chapelle de la médaille miraculeuse. Et ça vaut vraiment la peine. Il y a là le tombeau de Saint-Vincent de Paul. Alors, donc, il est ordonné prêtre à la chapelle des Filles de la Charité, justement, la chapelle de la médaille miraculeuse, au 140 rue du Bac. Mais ça n'est pas encore la chapelle de la médaille miraculeuse, car elle est, c'est, ça vient plus tard, c'est quelques années plus tard, hein? Il aurait bien souhaité partir en mission à l'extérieur, mais le supérieur général, puis le conseil, là, juge que sa santé est trop fragile pour s'expatrier. Alors, il croit que c'est préférable que de l'envoyer dans l'Auvergne, au centre de la France, dans les montagnes. L'air des montagnes, ça lui ferait du bien. Alors, pour une première année d'enseignement à Saint-Flour, il est chargé d'enseigner les traités de la grâce et de l'incarnation. Ça le marque beaucoup, ça. Un de ses élèves, d'ailleurs, va porter sur son enseignement une appréciation formidable en disant « Les paroles du Père Pourboire, le Père Boire, coulaient dans l'âme avec la douceur du miel. » On se situe, évidemment, au 19e siècle et on parlait dans des mots plus poétiques, mais c'est quand même beau. Sa sainteté était, là aussi, tellement rayonnante qu'un de ses confrères a dit de lui « Voyez-vous, Monsieur Perboire, c'est un saint et un saint privilégié. Je ne doute pas qu'il n'ait conservé l'innocence de son baptême. » Alors, au second étage du grand séminaire, dans la cellule toute simple qu'il a habitée, il y a une plaque de marbre qui rappelle sa mémoire. Il a des dons d'éducateur. Il sait d'un mot ou d'un regard briser des gens un peu trop orgueilleux. Il sait susciter un bon remords, hein, et ouvrir des cœurs qui sont un peu trop durs, un peu trop fermés. Il porte ses élèves et leur famille dans la prière. Aussi, quand au bout de 5 ans, les supérieurs le rappellent à Paris, bien c'est la consternation au collège de Saint-Flour et tous le pleurent. Le supérieur du grand séminaire dit de lui, « Monsieur Perboire est l'homme le plus accompli que je connaisse, parce qu'il était intelligent, il apprenait très vite, il enseignait très bien. C'était un modèle de sainteté en plus de ça. » Vous direz, « Ça nous dépasse. » Bien oui, il y a des gens comme ça qui ont des grâces particulières. Et le surmenage que Jean-Gabriel s'est imposé à Saint-Flour à ébranler sa santé, alors le supérieur général décide de lui donner un poste moins éprouvant. Il l'appelle à Paris pour aider, pour remplacer le vieux directeur du noviciat. Alors, c'est un poste important et la réputation de Jean-Gabriel Perboire, qui a beaucoup de compétences et de sainteté, a impressionné le supérieur général et le conseil. Alors, ils ont peur quand même à sa santé. Un des novices, le père Girard, un prêtre qui a déjà la quarantaine et qui a quitté le clergé séculier pour se faire lazariste, fait à des amis cette confidence. C'est très important, c'est une belle réflexion. J'avais désiré depuis bien des années voir un saint. Tout ce que j'avais vu jusque-là ne remplissait pas l'idée que je m'étais faite d'un saint. Il était si saint que je ne l'ai pas vu faire une faute en parole ou en action pendant les 6 mois que j'ai passé avec lui. Je ne sais si l'on peut être plus saint. J'avais dit plusieurs fois à des confrères, avant qu'il fût martyr, « Vous verrez, M. Perboire sera canonisé. » Alors pour les séminaristes, eh bien son enseignement le plus clair et le plus convaincant est celui qu'il donne par l'exemple quotidien de sa vie. Et certains séminaristes sont témoins parfois de phénomènes spirituels assez extraordinaires. Il y a un monsieur Aubert, qui est devenu curé plus tard, parle des moments d'extase de Jean-Pierre Perboire et même de lévitation. Jean Perboire donne l'exemple de toutes les vertus, mais ce qui frappe surtout ce séminaire, c'est sa douceur. Et l'enseignement spirituel que donne Jean-Gabriel Perboire porte avant tout sur le Christ lui-même. Il déclare, le Christ est le grand maître de la science. Seul, il donne la vraie lumière. Il est la lumière, le modèle et l'idéal. Les saints du ciel ne sont que des portraits de Jésus-Christ ressuscité et glorieux. De même que sur terre, ils ont été des portraits de Jésus-Christ souffrant, humilié et agissant. Ayons donc les yeux continuellement fixés sur Jésus-Christ. Entrons dans tous ses sentiments. Approprions-nous toutes ses vertus. Bon, c'était là tout un programme de vie que ce maître des novices applique pour lui-même dans son existence quotidienne. Et son exemple est plus éloquent que tout ce qu'il peut dire. Il a composé d'ailleurs une prière qui résume cette attitude d'âme. Il l'a proposée aux séminaristes. Ô mon divin sauveur, faites par votre toute-puissance et votre miséricorde infinie que je sois changé et tout transformé en vous. Que mes mains soient les mains de Jésus. Que ma langue soit la langue de Jésus. Que tous mes sens et mon corps ne servent qu'à vous glorifier. Mais surtout, transformez mon âme et toutes ses puissances. Que ma mémoire, mon intelligence, mon cœur soient la mémoire, l'intelligence et le cœur de Jésus. Que mes opérations, mes sentiments soient semblables à vos opérations et vos sentiments, et que de même que votre Père disait de vous, je vous ai engendré aujourd'hui, vous puissiez le dire de moi, et ajouter aussi, comme votre Père céleste, voici mon Fils bien-aimé, l'objet de mes complaisances. À un séminariste, Jean-Gabriel Perboire, à l'occasion de dire un jour, voilà 14 ans que je demande à aller en Chine. J'avais cette vocation avant d'être missionnaire. Je ne suis entré que pour cela à Saint-Lazare, chez les Lazaristes, les disciples de Saint-Vincent de Paul. Alors on venait de recevoir à la maison mère des objets qui avaient appartenu à ce monsieur Clette dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est mort martyr en 1820, 20 ans avant Jean-Gabriel Perboire. Il avait été martyrisé à Wuchangfu, en Chine. Et Jean-Gabriel Perboire, en montrant ses reliques aux séminaristes, il leur dit, voici l'habit d'un martyr, voici la corde avec laquelle il a été étranglé. Et c'est curieux, hein, il sera étranglé lui-même. Et il ajoute, quel bonheur pour nous si nous avions un jour le même sort. À l'un d'eux, il va dire, priez Dieu que ma santé se fortifie, que je puisse aller en Chine afin d'y prêcher Jésus-Christ et de mourir pour lui. Alors au début de 1835, on est 5 ans avant sa mort, un nouveau départ pour la Chine va avoir lieu. Et Jean-Gabriel reparle de son projet avec son directeur de conscience. Mais son directeur de conscience s'oppose à ça à cause de la santé de Jean-Gabriel Perboire. Mais il finit par céder. Jean-Gabriel va renouveler sa demande auprès du supérieur général. Et celui-ci s'objecte à cause toujours de la santé chétive de Jean-Gabriel Perboire. Alors, le conseil décide de s'en tenir à l'avis du médecin de la maison, mais le médecin, par acquis de conscience, il ausculte le candidat, il dit que c'est pas possible, on peut pas le laisser partir. Mais il voit la déception de ce jeune prêtre. Alors, il réfléchit à la question au cours de la nuit. Et puis, le lendemain matin, il revient à Saint-Lazare, dans le couvent, là, pour dire au père général qu'ayant réfléchi au cas de M. Perboire, bien, il pense que l'air du large sur le bateau, puis un long voyage en mer, bien, c'était très, très, très long, des mois, mais ça lui ferait très probablement le plus grand bien. Alors, à cette nouvelle, Jean-Gabriel Perboire est tout content. Il va à la chapelle remercier la Sainte Vierge. C'est le 2 février, le jour de la purification, la fête de la purification. Et alors, les séminaristes qui sont mis au courant de cette nouvelle sont enthousiastes. 18 d'entre eux se proposent pour partir en Chine, mais ils ne pourront pas tous partir. Jean-Gabriel Perboire, lui, d'ailleurs, n'a pas le temps, d'autre part, d'aller faire ses adieux à ses parents, à la campagne. Car le bateau doit partir du Havre, qui donne sur l'Atlantique, dans peu de jours. Il écrit à son oncle Jacques, à Montauban, le prêtre, « Je vais partir avec 2 de nos jeunes confrères et plusieurs pères des missions étrangères. Je ne puis vous exprimer combien je suis heureux d'une vocation si admirable. Je viens d'écrire à mes parents. Vous voudrez bien les consoler et les aider de vos bons conseils. » Alors le bateau quitte le port du Havre le samedi matin, 21 mars. Ils arrivent le 26 juin, vous voyez, 3 mois plus tard, à Batavia, l'actuel Jakarta. Ça a pris 3 mois, 5 jours de navigation. Puis le navire, finalement, met la voile le 7 août. Prend 3 semaines pour arriver le 29 août à Macao, à l'entrée de la rivière des Perles. Jean-Gabriel n'est que depuis peu de temps à la procure de Macao, à apprendre le chinois, quand un monsieur Torrette juge qu'après 4 mois d'études du chinois, Jean-Gabriel Perboire en sait déjà assez pour partir vers sa mission imaginée. Alors, le départ a été fixé au 21 décembre et Jean-Gabriel Perboire doit adopter la tenue chinoise. Alors, il se fait raser la tête. Il a les cheveux blonds. Hein? Il se fait raser la tête, sauf une petite touffe de cheveux en arrière, prolongée par une queue postiche, mais elle doit être plutôt noire. Ça... Alors, c'est pas facile pour lui. Il doit se coiffer, s'arranger. Il s'est laissé pousser aussi des moustaches. Il écrit à son frère, « Si vous pouviez me voir dans mon accoutrement chinois, ma tête rasée, ma longue queue et mes moustaches, balbutiant ma nouvelle langue, mangeant avec les bâtonnets qui servent de couteaux, de cuillères et de fourchettes. » Alors, M. Perboire doit faire route avec un père des missions étrangères de Paris, qui se rend au Sichuan. Ils partent à la nuit tombée. Il ne faut pas être repéré. Et on voit donc notre missionnaire qui est embarqué pour un voyage qui va durer près de 6 mois encore. C'est épouvantable quand on pense à ça. Jusqu'à son lieu de mission, il faudra traverser les provinces de Fujian, de Jiangxi et une partie du Hubei, soit près de 1500 kilomètres, tantôt en barque et tantôt à pied. Superboire est finalement heureux d'arriver sur les lieux de mission, où il y a là messieurs Baldus et Rameau, après bien d'autres aventures que je n'ai pas le temps de vous raconter. Il reste une quinzaine de jours avec ce monsieur Baldus. Il participe à son travail de missionnaire. Puis, il reprend une barque encore sur le Hankiang, dont les eaux s'étaient plutôt calmées, heureusement. Alors, cela prend encore quelques jours, mais il faut faire à pied la dernière partie du voyage dans une région montagneuse. Et là, il fait une étape assez longue, une quarantaine de kilomètres, et Jean-Gabriel est complètement épuisé par une montée qui a été rude et longue. Hein. Il raconte à son oncle, dans une lettre, ce chemin de croix qu'il vient de faire, au fond. Il dit, « Depuis quelques heures, je ne me traînais qu'à l'aide du parapluie. Je m'asseyais sur toutes les pierres que je rencontrais, puis je me remettais à grimper, quelquefois avec les mains. J'aurais au besoin grimpé avec les dents, poursuivant la voie que la Providence m'avait tracée. Enfin, je doublais le sommet de la terrible montagne et sur le revers, je trouvais caché dans un bosquet de bambou notre résidence où M. Rameau et un confrère chinois m'ont reçu à bras ouverts. » Alors, Saint-Jean-Gabriel Perboire arrive au cœur d'une communauté chrétienne d'environ 500 membres qui vivent dans des pauvres cabanes. Et ces pauvres gens ont été éprouvés par des nuées de sauterelles qui avaient tout dévoré. Et Jean-Gabriel Perboire, bien, se remet dans cet endroit plutôt paisible des fatigues de son voyage. Il se repose pendant 15 jours. Et pour la dernière partie du voyage, jusqu'à Nanyangfu, qui est le centre de la mission du Honan, ben le père Rameau l'oblige à prendre un mulet, le mulet de la mission, pour lui épargner un peu trop de fatigue. Hein. Puis il arrive à destination à la mi-août. Et le voyage depuis Macao a duré du 21 décembre 1835 jusqu'au 15 août 1836. Ça lui a donc pris plus d'un an, tantôt en barque, tantôt à pied ou encore à cheval. Mais c'était si pénible que notre missionnaire tombe gravement malade. On lui donne même les derniers sacrements. Mais quand il est rétabli vers la mi-novembre, il se remet à l'étude du chinois. La présence de 3 confrères chinois, M. P, M. Wang et le vieux père Song, ça lui facilite la tâche. À la fin de l'année, il peut déjà prêcher en chinois, puis il peut confesser. Alors Jean-Gabriel Perboire, notre saint, doit organiser le travail de cette petite équipe de missionnaires. Leurs chrétiens sont dispersés sur un territoire immense. Hein. Il faut des mois pour les visiter. En janvier 1838, nous sommes donc un peu plus de 2 ans avant sa mort, Alors là, Monsieur Rameau demande à Jean-Gabriel Perboire de venir travailler au Houpé et lui fixe comme résidence Tchawanké, un lieu entouré de montagnes où il est arrivé épuisé par son voyage à la fin de juin 1836. Il est là, au milieu d'une chrétienté fervente. Il s'en occupe de tout son cœur. Il organise les offices, il secourt les pauvres, ils sont très nombreux. Puis il visite les fidèles pour animer leur ferveur. Mais là arrive l'empereur Qianlong. N'oublions pas l'histoire de Qianlong. Dans un édit publié en 1794, il avait proscrit la religion chrétienne. Et les Européens, qui évangélisaient, devaient être mis à mort. Les Chinois chrétiens étaient passibles de l'exil, et cette rigueur de principe était facilement tournée selon les idées plus ou moins étranges des autorités locales, puis aussi à cause de l'argent. Et en 1819, il y a une flambée de persécution qui va jeter ce monsieur Klett en prison, et finalement, la persécution va revenir, et vous verrez tout à l'heure comment Jean-Gabriel Perboire sera arrêté et ce qu'il souffrira pour sa foi. Il y a donc une persécution qui sévit. C'est un vice-roi qui réside à Wuchangfu en 1839, qui déclenche une persécution dans la partie nord de sa province, au Houpé, justement, où, je vous ai dit, qu'était Saint-Jean-Gabriel Perboire. Alors, à cause de menaces puis de promesses, de récompenses, il y a un jeune chrétien qui est un peu faible, qui dévoile les noms des missionnaires et les endroits aussi où ils se rassemblent. Alors, Jean-Gabriel Perboire se trouve à ce moment-là à Tchawanké, sa résidence habituelle avec M. Baldus, qui relève, lui, d'une maladie. Puis il y a un confrère chinois aussi, M. Wang, dont j'ai mentionné le nom tout à l'heure. Il y a un père franciscain aussi, le père Idiolati, qui était de passage. Alors, nos missionnaires célèbrent avec beaucoup de solennité la fête de la Vierge du 15 septembre, avec une belle assistance de 1500 fidèles. Ils sont en train de prendre leur repas, ils discutent bien tranquillement. Tout à coup, un chrétien vient les prévenir qu'une troupe est en route, qui se dirige sur Chayankwe. Et s'inquiète pas, ils continuent leur repas, mais d'autres chrétiens surviennent pour dire que la troupe se rapproche. On n'en s'en inquiète pas encore, quand, enfin, on vient dire aux missionnaires que les soldats sont engagés sur le chemin même qui mène à la résidence. Alors, c'est alors le sauve-qui-peut. Hein? Et là, les pères Baldus et Wang réussissent à disparaître, eux, dans la montagne, tout près, avec le père Idiolati. Mais Jean-Gabriel Perboire tient à cacher les vases sacrés. Il se réfugie finalement dans des fourrés de bambous des environs. Et là, les soldats pillent la résidence, ils mettent ensuite le feu. Et la nuit venue, un chrétien conduit le père Jean-Gabriel Perboire chez un catéchiste. Puis il lui fait prendre un repas, il coupe la barbe. Et avant le jour, il le conduit dans un refuge un peu plus sûr. Mais les mandarins et leurs troupes ont encerclé les environs. Alors ils mettent la main sur un catéchumène et le font parler. Ils lui promettent une récompense de 30 taels, puis il finit par leur indiquer l'endroit où Saint-Jean-Gabriel Perboire s'est réfugié. Et là, les soldats se jettent sur le père Jean-Gabriel. Ils le brutalisent, ils l'enchaînent. Ils saisissent également quelques chrétiens qui se sont dissimulés dans les bois, et plusieurs d'entre eux veulent défendre leur missionnaire qu'ils aiment tellement. Mais il les en empêche. Alors là, les soldats le dépouillent de ses habits. Ils lui font revêtir des haillons de l'un d'eux. Vous savez, on voit ça dans des films, comment ces gens sont habillés parfois très, très pauvrement. Ils entraînent leurs prisonniers dans le village voisin en le battant sans arrêt. Et là, les soldats fêtent leur prise dans l'hôtel de ce petit village à l'auberge, pendant que M. Perboire lui passe la nuit enchaîné. Le jour venu, un mandarin procède à l'interrogatoire, un interrogatoire d'état civil, le déclare en état d'arrestation. Mais il lui fait reprendre ses habits. Il passe la nuit suivante d'abord suspendu par les bras, puis assis sur une banquette à laquelle on lui a attaché les jambes. Au matin du 18 septembre, il y a un convoi de prisonniers, leur gardien, qui se met en route pour la sous-préfecture de Kucheng. C'était 12 heures de marche, au moins 12 heures de marche. Et ému de pitié pour ce prisonnier qui ne tient plus sur ses jambes, il y a un notable chinois, on a retenu son nom, c'est Liu Qiulin, qui loue un palanquin. Vous savez, c'est une chaise à porteur, si vous voulez, presque. C'est pas tout à fait une chaise à porteur, mais en tout cas un palanquin, pour le faire transporter. Puis, il l'accompagne tout au long du parcours. On arrive dans l'après-midi du lendemain à la sous-préfecture. Et là, à Kucheng, Jean-Gabriel Perboire comparaît devant le tribunal civil. Ensuite, devant un tribunal militaire. Il déclare s'appeler Tong Wen Xiao. C'était son nom chinois. Il dit qu'il est prêtre de la religion chrétienne. Il se refuse à toute réponse qui pourrait compromettre des missionnaires ou des chrétiens. Puis il refuse de renoncer à sa foi, évidemment. Alors, ces deux comparutions sont surtout, devant ces tribunaux-là, des formalités. Il n'est ni malmené ni battu. Il rend lui-même justice à ces mandarins-là qui l'ont interrogé. Il dit « À Kucheng », il a écrit ça, « À Kucheng, pendant tout le temps, j'ai été bien traité. » Mais ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il passe un mois dans la prison de la ville parmi les détenus de droit commun. Il porte la veste rouge des détenus avec les chaînes au cou, aux mains et aux pieds. L'ordre arrive de transférer les prisonniers à la préfecture de Xiangyangfu. Et là, le voyage qui dure 2 jours est extrêmement pénible. Les prisonniers marchent l'un derrière l'autre avec leurs chaînes. C'est relié à une barre de fer qui est appuyée, qui porte sur l'épaule de chaque prisonnier. À l'arrivée, Jean-Gabriel Perboire est séparé de ses compagnons et dans la prison, bien, il est interné. Les détenus portent continuellement leurs chaînes. De plus, pour la nuit, on leur bloque les chevilles avec 2 pièces de bois. Saint Jean-Gabriel Perboire comparaît d'abord devant le gouverneur de la ville, qui lui pose des questions d'identité habituelle et lui reproche d'être venu enseigner la religion en Chine, la religion chrétienne. Il lui fait quelques menaces, mais il ne va pas plus loin. Il le renvoie dans sa prison. Le lendemain, il le fait comparaître devant le tribunal du département. Là, le mandarin qui préside la séance, après avoir interrogé M. Perboire sur son identité, il veut l'obliger à fouler un crucifix qui est placé sur le sol, marcher sur un crucifix. Il dit « Jamais je ne le ferai ». Et après avoir ricané sur la foi chrétienne, le mandarin le fait agenouiller sur des chaînes de fer. Ils le font rester là 4 heures dans cette position horriblement douloureuse. Vous vous imaginez à genoux sur des chaînes de fer. Et lors d'un troisième interrogatoire, Saint Jean-Gabriel Perboire comparaît devant le tribunal des finances. Le mandarin le fait encore agenouiller sur des chaînes. Il veut lui faire avouer que les prêtres et les religieuses vivent dans l'inconduite, en somme qu'ils sont amants et maîtresses. Puis, il lui fait revêtir les ornements sacerdotaux. Il lui demande à quoi ça sert, ça, des ornements comme ça. Puis il conclut, « Je vois bien que vous ne voulez pas abandonner votre foi et que c'est en vain que je ferai des efforts pour vous forcer à y renoncer. » Alors il le renvoie dans la prison. Comparé une nouvelle fois devant le tribunal, le juge veut lui faire avouer où se trouvent les autres missionnaires dans la province. Alors il répond qu'il n'en sait rien. Et furieux de ne pouvoir rien en tirer, bien, il le fait suspendre, écoutez bien ça, par les pouces. C'est terrible, hein? Où est notre courage pour défendre notre foi? Il le fait suspendre par les pouces et par les cheveux pendant 4 heures à une sorte de potence qu'on appelle en chinois le hangtze. Puis après s'être moqué de son patient et des chrétiens, il le fait reconduire en prison. 10 jours plus tard, le même juge le fait comparaître une 5e fois, en le faisant encore suspendre au hangtze, mais sans résultat. Il le fait alors frapper au visage de 40 coups d'une épaisse semelle de cuir. Le soir, il est reconduit tout sanglant dans la prison. Il dira plus tard, « Ce que j'ai souffert à Xiangyangfu, c'était directement pour la religion. » Ces épreuves dans cette ville durent environ 1 mois. À la fin de novembre 1839, M. Perboire et les chrétiens, arrêtés en même temps que lui, sont envoyés à la capitale de la province, Uchangfu. Ils sont transportés en barque, toujours enchaînés, pendant ce voyage qui dure 9 jours. Et le vice-roi, lui, a donné des ordres rigoureux de perquisition, mais sans grand résultat. Le père Rizzolatti, dont je vous ai parlé tout à l'heure, puis les lazaristes chinois, messieurs Wang, Cheng et Yang, dont je vous avais mentionné les noms aussi, se sont évaporés dans la foule des grandes agglomérations. Les prisonniers, à leur arrivée, eux autres, sont d'abord parqués ensemble dans une auberge, et Jean-Gabriel Perboire profite de ce qu'ils sont tous ensemble pour les exhorter à la fermeté et pour leur donner l'absolution et les bénir. Ils sont répartis dans diverses prisons. Alors, M. Perboire est affecté à la prison du tribunal des crimes. Le régime, qui est prévu pour des criminels très endurcis, est très dur. Là, les détenus sont enchaînés les uns aux autres. On leur bloque les pieds entre deux fortes pièces de bois pour la nuit, ce qui abîme leur chair, évidemment. Et au cours de son séjour à la capitale de la province, Jean-Gabriel Perboire comparaît devant 4 tribunaux différents. Il subit 20 d'interrogations. On essaie de lui faire avouer qu'il est venu en Chine pour faire fortune. On veut savoir par quelle localité il est passé. Mais il garde le silence. On prétend qu'il arrachait les yeux des mourants pour en confectionner des remèdes. Quelles accusations insensées, hein? Il est frappé de lanières et de coups de bambou. Il est suspendu par les pouces encore une fois. Et là, comme on le trouve absolument insensible, et que ça doit être grâce à un sortilège quelconque, on lui fait boire du sang de chien tout chaud. On veut encore l'obliger à fouler un crucifix, à marcher sur un crucifix. Mais il s'agenouille plutôt pour le baiser. Et lors d'une autre séance, le mandarin veut absolument faire avouer à M. Perboire sa prétendue inconduite et à force de coups de bambou, il en reçoit ce jour-là plus de 110 coups de bambou. Vous vous imaginez? De quoi mourir? Et son corps ne devient plus qu'une loque. Et là, on le ramène à la prison dans une corbeille parce qu'il ne peut plus marcher. Et les gardiens prient de pitié. Oui, les gardiens prient de pitié. Lave ses vêtements et soigne ses plaies. Et le catéchiste, donc un jeune catholique qui enseigne, André Fong, réussit à introduire auprès de Jean-Gabriel Perboire 2 chrétiens et un jeune lazariste chinois, le père Yang, auquel le prisonnier peut se confesser. M. Perboire se remet peu à peu de ses blessures. Et au cours d'une autre séance du tribunal, le juge lui ordonne de revêtir les ornements sacerdotaux, encore une fois, qui ont été saisis. Et il le fait apparaître ainsi devant tout le monde. Mais il a l'air transfiguré, plein de majesté, au point que certains des Chinois le sont pleins d'admiration. Il s'écrie « Hé, mais c'est le dieu Fuo vivant !» Dans la piété populaire des Chinois, Fuo, c'est une incarnation de Bouddha. Alors, malgré toutes ces comparutions bien nombreuses, et malgré les interrogatoires les plus habiles, et malgré les tortures, les brutalités, bien, les mandarins ne peuvent obtenir vraiment là, aucun aveu de la part de Saint-Jean-Gabriel Perboire. Là, le vice-roi était décidé à prendre lui-même l'affaire en main. Alors, il fait comparaître le prisonnier 20 fois, donc, et il veut encore lui faire fouler aux pieds le crucifix, puis adorer la statue d'une idole, et Jean-Gabriel s'y refuse. Il est indigné de tout ça. Et on le fait agenouiller sur des tessons de verre, hein, ce qui est épouvantable. On lui grave sur le front, avec une pointe de fer rougie au feu, les mots « Kiaofei », c'est-à-dire « secte abominable ». On lui tire les membres sur un chevalet, mais le martyr garde toujours le silence. Furieux, le vice-roi le fait rouer de coups. Et comme il trouve que les bourreaux ne frappent pas assez fort, il se met lui-même à frapper cette pauvre victime. Et là, il provoque l'indignation de ceux qui sont témoins de cette scène. On trouve vraiment qu'il exagère, le vice-roi. Jean-Gabriel Perboire est ramené presque mourant à la prison. Il a reçu ce jour-là plus de 200 coups de lanières et de gourdins. Et grâce aux bons soins des gardiens, bien, il se remet encore une fois assez rapidement. On est à la mi-janvier, le vice-roi juge inutile de recommencer les interrogatoires qui n'aboutissent à rien. Il fait comparaître Jean-Gabriel Perboire et le groupe de chrétiens qui ont courageusement confessé leur foi. Il veut en finir une bonne fois avec ses accusés qui sont obstinés dans leur fidélité au Christ. Il dit « Votre sentence va être prononcée. Toi, Tong Wenxiao, c'est le nom chinois de notre saint, tu dois être étranglé. Et vous qui n'avez cessé de résister aux ordres de vos supérieurs et qui n'avez pas voulu renoncer à votre foi, vous allez être envoyé en exil. Je veux cependant essayer encore de vous sauver. Reniez donc votre foi, et aussitôt vous serez libre, sinon vous aurez le châtiment que vous méritez. » Alors Jean-Gabriel Perboire répond « Plutôt mourir que de renier ma foi. » Et ses compagnons répondent à peu près la même chose. Le vice-roi est en colère. « Vous ne voulez donc pas renoncer à vos erreurs? Eh bien, signez votre propre condamnation en traçant de votre main une croix sur cette feuille. » Alors Jean-Gabriel prend pinceau et trace d'une main ferme une belle croix au bas du document. Et les chrétiens font de même. Et le vice-roi prononce alors la condamnation, mais pour qu'elle soit exécutoire, il faut qu'elle soit ratifiée par l'empereur. Et cette formalité demande un long délai. Et là, à partir de sa condamnation, c'est le régime de la prison qui se fait beaucoup plus humain, heureusement. Et là, les gardiens, les autres prisonniers, qui sont témoins de sa grande douceur, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et de sa patience, l'entoure de respect. Il peut désormais recevoir les visites du catéchiste André Fong, dont je vous ai parlé, qui prend soin de lui, puis qui lui procure un petit peu de nourriture pour qu'il se rétablisse complètement. Il a aussi des visites de son confrère, le père Yang, le lazariste chinois. Toute cette assistance aux prisonniers est organisée par le père Rizzolatti. Le père Rizzolatti lui demande, par le père Yang, d'écrire une lettre pour donner de ses nouvelles à ses confrères. Il l'écrit en latin, afin qu'elle puisse être lue par les missionnaires chinois et portugais. C'est une véritable relique, car le papier est taché de sang. Ses plaies ne sont pas encore guéries, évidemment. Et cette lettre, c'est son propre témoignage sur tout ce qu'il a souffert, et non pas seulement le récit de ceux qui ont été des témoins de telle ou telle phrase de son martyre. Je vous lirai tout à l'heure cette dernière lettre de Saint Jean-Gabriel Perboire. Voici donc la dernière lettre de Saint Jean-Gabriel Perboire, prêtre de la mission, c'est-à-dire lazariste, missionnaire en Chine, le premier saint de Chine, canonisé le 2 juin dernier, lors du dimanche de la Trinité. Les circonstances de lieu et de temps ne permettent pas de vous donner de longs détails sur ma position. Vous les connaîtrez abondamment par d'autres voies. Lorsque je fus arrêté à Kuching, j'y fus traité avec assez d'humanité pendant tout le temps que j'y restais, quoique j'y eusse subi deux interrogatoires. À Xiangyangfu, j'ai subi quatre interrogatoires, à l'un desquels je fus obligé de rester pendant toute une demi-journée, les genoux sur des chaînes de fer et suspendu à la machine Hangtze. À Wuchangfu, j'ai subi plus de 20 interrogatoires, et dans presque tous, j'ai subi diverses tortures parce que je ne voulais pas dire ce que les mandarins désiraient savoir. Si je l'eusse dit, certainement, il se serait allumé une persécution générale dans tout l'Empire. Cependant, ce que j'ai souffert à Xiangyangfu était directement pour la cause de la religion. À Wuchangfu, j'ai reçu 110 coups de pantsé parce que je n'ai pas voulu fouler au pied la croix. Plus tard, vous apprendrez d'autres circonstances. De 20 chrétiens environ qui furent pris et traduits avec moi, les deux tiers ont apostasié publiquement. C'est une lettre très sobre, comme vous voyez, mais qui dit tout. Le père Yang, le lazariste chinois qui l'accompagne, ajoute à la fin de ses lignes quelques mots en disant: il a écrit cela de sa propre main dans la prison, c'est pourquoi il ne peut pas en écrire bien long. Puis il fait transmettre par un catéchiste ce message à ses paroissiens de Chai Wen Kiu. Quand tu retourneras, salue en mon nom tous les chrétiens de Chai Wen Kiu. Dis-leur de ne pas craindre cette persécution, qu'ils aient confiance en Dieu. Moi, je ne les reverrai plus. Eux non plus ne me reverront pas, car je serai certainement condamné à mort. Mais je suis heureux de mourir pour le Christ. Alors, les relations entre le prisonnier et ses geôliers, ses co-détenus, ont complètement changé. Et tous le regardent avec sympathie, tellement sa douceur les a conquis. Il est complètement rétabli, en partie grâce aux bons soins d'un médecin qui vient le visiter. Il l'a pris en amitié. Le compte-rendu de la séance du tribunal, puis des sentences rendues, je vous ai signalé, tout à l'heure, ça a dû être envoyé à l'empereur, hein, à Pékin, pour être soumis, donc, à l'approbation de cet empereur qui s'appelait Tao Kwan. Alors, la réponse est arrivée qu'en septembre, et au matin du vendredi 11 septembre, il y a un courrier, un chinois qui est arrivé de Pékin, qui est arrivé à Ankov. Il a traversé le fleuve pour aborder à Wuchangfu. Il est venu présenter au vice-roi, le fameux vice-roi dont je vous ai parlé tout à l'heure, le document qui portait l'approbation officielle en rouge de la condamnation à mort de Tong Wenxiao, c'est-à-dire de Jean-Gabriel Perboire. Et là, selon la coutume, la sentence devait être exécutée aussitôt et un peloton de garde est venu extraire Jean-Gabriel de la prison ainsi que sept criminels qui étaient condamnés à mort. Et là, Jean-Gabriel Perboire portait la camisole rouge des prisonniers. On lui a attaché les mains derrière le dos. On a fixé à ses mains un long bambou portant un écriteau avec le motif de la condamnation à mort. Chaque condamné était encadré par deux sbires. Le groupe était suivi de quatre mandarins. La marche rapide, ou plutôt la course des condamnés, était accompagnée de coups de cymbales. C'était destiné à ameuter la population. On est sorti de la ville, on a gagné le lieu des exécutions. On a réglé d'abord leur compte aux sept criminels qui devaient être exécutés. Ils ont été décapités. Pendant ce temps, Jean-Gabriel Perboire s'était mis à genoux, il priait, et certains spectateurs ont fait cette réflexion merveilleuse: voilà l'Européen à genoux et qui prie. Beaucoup s'indignaient que l'on puisse mettre à mort un homme qui avait donné l'exemple de toutes les vertus, mais Jean-Gabriel a été dépouillé, finalement, de la casaque rouge des prisonniers, et on l'a laissé qu'un misérable caleçon. Comme vous voyez, ça ressemble beaucoup à la mort de Jésus-Christ. Puis il fut attaché à un gibet qui avait la forme d'une croix assez basse. On lui attachait les bras derrière les bras de la croix. On lui a fait replier les genoux, puis on lui a attaché les chevilles au poteau, de sorte que ses pieds ne touchaient plus le sol. Pour l'exécution, le bourreau lui a mis une corde autour du cou. Il a passé un morceau de bambou derrière la corde. Et là, d'une vigoureuse torsion, il a serré la corde autour du cou du condamné, puis il a relâché la corde pour laisser à Saint-Jean-Gabriel Perboire le temps de respirer, puis il a serré la corde une nouvelle fois, il l'a relâché encore. Ce n'est qu'à la troisième torsion qu'il a maintenu la corde serrée jusqu'à ce que la mort s'ensuive. Et là, la tête de notre martyr s'est inclinée, comme Jésus-Christ, et il venait de rejoindre dans la mort sur ce calvaire celui qu'il avait suivi pas à pas depuis des années, Jésus. Il mourait à l'heure de midi environ, à l'heure de la crucifixion de Jésus. Comme l'expression de son visage était restée sereine, à l'encontre du visage de ceux que l'on exécutait par strangulation d'habitude, un aide du bourreau, qui pensait qu'il n'était pas mort, lui a porté un coup violent de pied dans le bas-ventre. Et là, le corps devait rester exposé jusqu'au lendemain matin. Il avait gardé, et c'est bien étrange, sa souplesse et son teint normal. Et aussi, pour éviter quelques émotions populaires, bien un mandarin qui le fait couvrir d'un voile. Le plus grand miracle, dans le cas de Jean-Gabriel Perboire, c'est cette similitude de sa passion avec celle de Jésus. Mais Il a toujours été un saint depuis son enfance jusqu'à sa mort. C'est un saint exceptionnel, presque inimitable. On peut dire que ça dépasse l'entendement. Mais il ne faut pas se laisser prendre à ces détails-là. Il ne faut pas croire que c'est inimitable. La sainteté dont il a fait preuve a été une sainteté de tous les jours, qui était faite de petites choses. À Montauban, comme à Saint-Flour, où il enseignait, ce qui a frappé ceux qui vivaient près de lui, c'était surtout son humilité. L'habitude de se faire tout petit devant Dieu était devenue pour lui un réflexe qui lui faisait fuir les occasions de se faire valoir, puis qui le mettait au niveau des plus humbles et des plus pauvres. Ô mon divin Sauveur, faites que votre toute-puissance et votre infinie miséricorde, faites que par elle je sois changé et tout transformé en vous. C'était sa prière profonde. Seigneur Jésus-Christ, qui a rendu admirable parmi les peuples de la Chine ton martyr Saint Jean-Gabriel Perboire, par la sainteté de sa vie, ses fatigues apostoliques, et par une participation extraordinaire aux souffrances de ta passion et de ta croix, accorde-nous, nous t'en prions, de suivre ces exemples de foi, de charité et de patience, afin de mériter d'être associé à sa gloire. Amen. Si vous voulez d'autres renseignements sur Saint Jean-Gabriel Perboire, vous pouvez toujours communiquer avec le Père Radenac à Montréal. R-A-D-E-N-A-C. Il y a une publication très intéressante dont je me suis inspiré, Saint Jean-Gabriel Perboire, près de la mission Lazariste, aux éditions du Cygne. Un très beau livre, très bien illustré. Si vous désirez une copie, cassette audio de cette émission-ci, vous pouvez téléphoner à Marc-Alexandre à 374-3785, 374-3785. Je vous rappelle qu'à la messe aujourd'hui, Jésus déclare « Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous repoussent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, soyez heureux, sautez de joie, car votre récompense est grande dans le ciel. » C'est ainsi que leur père traitait les prophètes. Mais malheureux, vous les riches, vous avez votre consolation. Malheureux, vous qui riez maintenant, vous serez dans le deuil. Malheureux êtes-vous quand tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi que leur père traitait les faux prophètes. Cet évangile est très dur, mais très exigeant et très beau.